enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Bien, vous avez votre Bible. Ce matin, nous continuons notre série « Écrit aux sept églises ». Nous sommes dans l'Apocalypse. Et nous voyons au travers de cette série les sept messages qui ont été envoyés à sept églises différentes par Jésus. Jésus donne cette révélation à l'apôtre Jean qui est sur l'île de Patmos et on trouve ça dans les chapitres 2 et chapitre 3 de l'Apocalypse. Nous croyons que dans ce message, c'est un message pour aujourd'hui. Que l'Apocalypse, ce n'est pas un message pour les temps passés. Ce n'est pas seulement un message pour les temps à venir. Certains voient dans l'Apocalypse que la prédiction de l'avenir. Nous, aujourd'hui, nous voulons nous poser la question, qu'est-ce que ça me dit à moi, concrètement, aujourd'hui? Ce que ça disait aux gens d'il y a 1000 ans, 2000 ans, c'est intéressant au niveau historique. Ce que ça nous dit concernant ce qui va se passer dans 50, 100, 200 ans, je ne sais pas si on va arriver à autant, parce qu'on croit que le Seigneur revient bientôt, non? Mais en tout cas, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ce message nous apporte concrètement? L'Apocalypse, c'est un message pour aujourd'hui. Vous avez votre bulletin et dans ce bulletin, il manque des mots. Et si vous n'avez pas de quoi écrire pour remplir ces mots, on va se faire un plaisir de vous prêter un bulletin. Levez simplement la main. On va vous prêter un bulletin, et nous, pas un bulletin, un stylo, et puis nous, on va essayer de vous afficher quelque chose à l'écran. Pourquoi ça marche pas? Parce que là, tu fermes. Puisqu'on a ça aussi, je peux le faire. Ça va venir? Ça devrait arriver bientôt. En tout cas, vous avez une Bible. Et oui, il ne faut pas compter que sur l'écran en disant « Oh, ce n'est pas grave d'amener sa Bible, on a un écran qui nous met tous les textes. » Non, 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 la Bible c'est important. On est dans l'Apocalypse chapitre 2 et à partir du verset 8. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué 7. Verset 8, vous voyez, vous pouvez corriger les erreurs. Apocalypse chapitre 2. Verset 8, il est dit « Écrit à l'ange de Smyrne ». Dimanche passé, nous avons vu la première des églises qui est l'église d'Éphèse. Aujourd'hui, nous voyons l'église de Smyrne et dimanche prochain, l'église de Pergame et ainsi de suite. L'église d'Éphèse, nous avons vu que le Seigneur avait que des belles choses à dire à cette église en disant « Je connais tes œuvres ». Je sais tout ce que tu peux faire, je connais ta persévérance, je connais ces choses. Et il y avait là vraiment un encouragement fait à cette église, mais il y avait néanmoins un reproche. Un reproche. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et là maintenant, nous sommes avec l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de Smyrne. Nous avons vu, pourquoi je vous ai dit qu'il y avait une erreur? Ah ben voilà, ça arrive. Apocalypse chapitre 2, verset 7, il est dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que nous avons tous des oreilles ce matin? Et c'est sur ce verset qui revient à la fin de chaque lettre. À chaque épître, il est dit que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous, ce matin, nous prenons ce verset pour nous et nous disons, nous avons des oreilles, donc nous devons écouter et entendre ce que l'Esprit a dit à ces églises-là. Dans cette église de Smyrne, alors c'est où Smyrne? Smyrne, c'est quelque part en Turquie, et aujourd'hui, ça a changé de nom, ça s'appelle Izmir. Et c'est ici, vous voyez? Vous avez reconnu la Turquie? Hein, le premier coup d'œil, vous allez dire, ah oui, ça c'est la Turquie, puis là il y a la mer, et là il y a Izmir. Je crois que j'ai quelques photos à vous montrer peut-être. Oui, alors là vous voyez les ruines qui sont là, vous les voyez? Il y a beaucoup de lumière, hein. Il faudrait, je ne sais pas, peut-être si on éteint les lumières ici. Ça va mieux? Bon. La photo suivante. Ce qui reste de... Voilà quelques ruines de la ville de Smyrne. Ensuite, ça c'est peut-être le plus connu, c'est l'Agora, c'est-à-dire la place publique qu'il y avait. Et donc ça, ça date de l'époque, hein, de l'époque de Jean, de l'époque des Grecs, ensuite des Romains. Voilà donc ce qu'il reste de la place principale de l'Agora de Smyrne. Je ne pense pas que j'ai d'autres photos après, hein. Jésus s'adresse à l'église de Smyrne. Et nous avons remarqué, nous avons dit dimanche passé, qu'à chaque épître, Jésus se présente d'une manière différente. Vous avez noté ça? Et là, pour cette église, Jésus se présente comme étant celui qui est le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Jésus est donc là présenté comme le premier et le dernier. Ça rappelle un petit peu l'alpha et l'oméga, non? Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet en grec, et oméga, c'est la dernière lettre. Sauf qu'ici, c'est le premier et le dernier, le protos et l'eschatos. Le premier, le prototype, et le dernier. Donc Jésus est là comme étant celui qui est le premier et le dernier, et celui qui était mort. Ah non, mais je suis à la diapo d'avant encore. Celui qui était mort, mais qui est revenu à la vie. Il était mort et il est revenu à la vie. Et nous avons souligné qu'avant d'écrire ces sept épîtres, Jésus était présenté juste avant au chapitre premier. Et là, on peut montrer ce verset, et on l'avait déjà cité dimanche passé, comme étant celui qui est vivant. Je suis le premier, le dernier, le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est la manière dont Jésus s'est présenté à Jean avant d'écrire aux sept églises. Ensuite, pour Smyrne, il répète, je suis vivant, j'étais mort et maintenant je suis vivant. Et pourquoi, pour Smyrne particulièrement, Jésus doit-il insister sur le fait qu'il est vivant? Parce qu'il y a un rapport entre Smyrne et la résurrection. Déjà, parce que Smyrne veut dire myrrhe. Ça vous rappelle quelque chose, la myrrhe? Il n'y a pas les mages là qui sont venus apporter de la myrrhe à Jésus, mais plus encore, la myrrhe, c'est ce parfum que l'on servait pour embaumer le corps d'un mort. Donc on voit que déjà dans Smyrne, il y a cette connotation à l'embaumement du mort. Mais plus encore, Smyrne a toute une histoire de résurrection. L'histoire de Smyrne, c'est déjà une résurrection. Vous connaissez bien l'histoire des Grecs, hein? Smyrne, vous connaissez? Moi non plus, je ne connaissais pas. J'ai dû chercher dans un livre. Et c'est quoi cette histoire? En 624, avant Jésus-Christ, ça fait vieux ça, hein? En moins 624, eh bien la ville de Smyrne a été détruite par le roi de Lydie, c'est-à-dire Aliates. Ce roi-là a détruit la ville. Elle était complètement détruite. C'était plus qu'un tas de ruines. Et pendant plusieurs siècles, elle est restée en tant que tas de ruines. Et c'est Alexandre le Grand. Vous avez entendu parler d'Alexandre le Grand. C'est Alexandre le Grand qui va donner l'ordre de rebâtir la ville. Et plus tard, un écrivain grec du nom de Strabon. Moi non plus, je ne connaissais pas, rassurez-vous, hein, tout va bien. Strabon. Ah, ma femme, elle dit, si, tu aurais dû connaître. Elle connaît ma femme, c'est normal, c'est ma femme. Un écrivain du nom de Strabon, qui date de 58 avant Jésus-Christ et qui est mort en 25 avant Jésus-Christ, lui a parlé de la ville de Smyrne. Et quand il a parlé de la ville de Smyrne, il a dit que c'était une ville qui était morte et qui a été ressuscitée. Et ça, c'était le contexte grec dans lequel l'épître a été écrite. C'est le contexte historique. Et quand la lettre est envoyée à cette église-là, quand Jésus écrit à l'église de Smyrne en disant « J'étais mort et je suis vivant maintenant, je suis revenu à la vie », toi, la ville de Smyrne, tu dois bien savoir ce que c'est que d'avoir été mort et de revenir à la vie. Smyrne était une ville détruite, une ville morte, et elle est revenue à la vie, elle a été rebâtie. Et c'est tout un message d'espoir que Jésus est en train de donner à cette église en disant, voyez-vous, ça s'est déjà produit dans votre histoire. Eh bien, à plus forte raison, si vous mettez votre foi en moi, il y a une résurrection, il y a une vie, et on va en parler dans le cadre du message qu'il y a dans cette épître. Dans cette lettre envoyée à l'église de Smyrne, Jésus dit « Je connais ». Nous avions vu que pour Éphèse, Jésus avait dit aussi « Je connais ». Et là donc, il dit premièrement « Je connais ton affliction ». Apocalypse chapitre 2, verset 9, « Je connais ton affliction ». Et si on regarde dans d'autres traductions, la Tob a traduit « Je connais ton épreuve ». Affliction, épreuve. On a encore d'autres traductions. La Bible en français courant a traduit « Je connais ta détresse ». On sait ce que c'est que la détresse, l'affliction, l'épreuve. Et la Darby a traduit « Je connais ta tribulation ». Je connais donc ton affliction, ton épreuve, ta détresse, ta tribulation. Quelqu'un va dire, oui, mais en grec, c'est quoi? En grec, c'est ces quatre mots à la fois. Le mot grec qui est utilisé ici veut dire tribulation et peut être traduit de la sorte. Donc Jésus est en train de dire, je sais par où tu passes. Est-ce que ce n'est pas rassurant ce matin de considérer que quand on passe par un temps de détresse, quand on passe par un temps d'affliction, un temps d'épreuve et de tribulation, Jésus est celui qui peut venir vers nous et dire « Je connais, je sais par où tu passes ». Bien souvent, ceux qui vivent de tels temps d'épreuves, de détresse, de tribulation, ont l'impression ou le sentiment de dire « Dieu m'a oublié ». De dire « Que se passe-t-il? Où est Dieu? Pourquoi est-ce que je vis dans la détresse? Pourquoi est-ce que je suis dans la tribulation? Pourquoi est-ce que je suis dans un temps si difficile ?» Mais Jésus répond à cette église « Je connais ». Et ce matin, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ne dis pas ce matin « J'ai été abandonné de Dieu ». Dieu ne considère plus mon cas. Dieu me voit plus. Jésus est en train de dire ce matin, au travers de cette lecture, « Je connais. Je connais ta situation. Je sais par où tu passes. Je connais ton épreuve, je connais ta détresse. » Et c'est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui est le premier et le dernier. Celui qui est le début et la fin. Celui en qui tout et résumé, il est la solution, la clé, la réponse à tous nos problèmes. C'est lui qui nous dit ce matin, je connais tes problèmes, je connais tes épreuves, je connais ta détresse. Et quand nous connaissons Jésus comme étant celui qui a compassion, celui qui nous aime et celui qui veut notre bien, est-ce que ce n'est pas rassurant de savoir qu'il connaît? Il sait par où tu passes. Moi, ça m'encourage de savoir que si je vis des moments difficiles, il le sait. Et quand Jésus dit « je sais », ce n'est pas simplement « oui, j'ai eu connaissance que je sais ». Et comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il sait et il peut se mettre à notre place parce qu'il a vécu d'une certaine manière ce que nous vivons. On ne peut pas dire « ah Jésus, tu ne peux pas comprendre ». Ma détresse est tellement grande. Oh, laissez-moi vous dire qu'il peut comprendre votre détresse. Il peut comprendre votre tourment. Il peut comprendre votre découragement. Parce que lui est passé par là. Il est passé par des temps de détresse, des temps de tribulation, des temps d'angoisse. Non ? Ce n'est pas le mot qui est utilisé dans ce jardin de Gethsémané. Angoissé. Et il a été vainqueur sur ces choses. Et il peut nous dire avec vérité ce matin, je sais, je connais. Et je suis le premier, le dernier, j'ai vaincu, j'ai triomphé de ces choses. Et en lui, il y a une solution pour nous ce matin. Deuxièmement, Jésus va dire à cette église, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Ah, peut-être certains vont dire, mais je ne comprends plus là. Ils sont pauvres ou ils sont riches? Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Alors c'est clair qu'on ne parle pas de la même pauvreté et de la même richesse ici. Qu'on peut être pauvre avec un compte en banque plein d'argent, non? Certains disent, avec de l'argent, on peut s'acheter un lit. Et un lit à eau ou je ne sais pas quoi, mais qui coûte des milliers de dollars, mais vous n'achetez pas le sommeil, non? Avec de l'argent, pouvez-vous acheter du matériel de conditionnement, de fitness ou de je ne sais pas quoi, toutes sortes d'équipements, mais vous ne pouvez pas acheter la santé. Vous savez, on peut être riche en dollars et pauvre au niveau de sa santé, au niveau de son moral, au niveau de sa vie spirituelle. Ça peut être le contraire. On peut être riche, on peut être pauvre matériellement, on peut être pauvre au niveau des pièces d'argent, de la monnaie sonnante et trébuchante, et être riche en ce qui concerne le royaume de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, l'apôtre Paul dit « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Il n'a pas regardé son égalité, sa royauté, sa gloire qu'il avait dans le ciel pour venir prendre l'apparence d'un homme et venir dans son humanité. Est-ce qu'on est d'accord de dire que Jésus s'est appauvri quand il a quitté son ciel de gloire pour venir naître dans une étable ? Et pour se retrouver dans la condition d'un être mortel, d'un être humain, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et si Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, c'était afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Parce que Jésus s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix, nous pouvons aujourd'hui être enrichi de la vie éternelle qu'il nous donne. Jacques, chapitre 2, verset 5, nous dit « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde. Si pour le monde nous sommes pauvres, qu'importe, du moment que nous soyons riche en la foi et héritier du royaume qu'il a promis. Où est notre trésor? Est-ce que notre trésor est dans notre compte bancaire ou est-ce que notre trésor est dans le ciel? Moi, j'ai des rares dans la banque du ciel. Je sais qu'il n'y aura pas de scandale Norbourg ou de je ne sais quoi. Et qu'en investissant dans le royaume de Dieu, eh bien là, il y a tout un trésor. Et les intérêts rapportent beaucoup plus qu'ici. Non? Vous ne croyez pas? Où est notre trésor? Qu'est-ce qui nous fait courir? Qu'est-ce qui nous fait vivre? Qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce que ce qui est important pour nous ce matin, c'est de l'argent? C'est une maison? C'est une voiture? C'est un confort matériel? Ou est-ce que ce qui est important pour nous, c'est d'être riche en la foi, d'avoir un trésor spirituel, d'avoir la vie éternelle? Vous vous souvenez de cette parabole où Jésus va dire à cet homme insensé. Alors que cet homme était en train de dire « Je suis riche, j'ai réussi dans la vie, j'ai travaillé dur toute ma vie, j'ai réussi à mettre beaucoup d'argent de côté, je suis fier de moi, j'ai pas été paresseux, j'ai pas été feignant, j'ai travaillé fort et mon argent a rapporté, maintenant j'ai toutes sortes de propriétés, en plus cette année j'ai fait une belle récolte » tellement que mes greniers sont trop petits pour engranger tout ça, alors il faut que je construise, que j'agrandisse, que je bâtisse. Et cet homme pouvait dire à lui-même, « Mon âme, réjouis-toi !» Et Dieu répondra à cet homme insensé. Aujourd'hui, ton âme te sera redemandée. Pourquoi insensé? Parce qu'une fois qu'on passe de l'autre côté et que l'on franchit le seuil de la mort, que faisons-nous de nos trésors sur la terre? Ça part en fumée. Il ne reste plus grand-chose. Mais les trésors qu'on a emmagasinés et que l'on a mis dans le ciel, ben ceux-là sont toujours là. Vous ne croyez pas? Est-ce qu'on construit avec du bois, du foin, du chaume et qui sont consumés par le feu? Ou avec de l'or, des pierres précieuses et de l'argent qui traversent l'épreuve du feu? Ce matin, réalisons que ce que le monde voit, être riche aux yeux du monde, ça ne dure qu'un instant. C'est qu'un éclat, c'est qu'un moment qui scintille. Et puis, face à l'éternité, ce n'est pas grand-chose. Mais qu'il y a tout un trésor que Dieu nous a donné et qui nous appelle à être héritiers du royaume. Parce qu'on réalise que, en Jésus, nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu et co-héritiers du royaume de Dieu. Nous avons un héritage. Et pouvoir dire avec l'apôtre Paul aux Éphésiens, notre cité à nous, elle est dans les cieux. Ma citoyenneté, c'est vrai que des fois je suis un peu perdu avec ma citoyenneté en disant, où est ma citoyenneté? Ma citoyenneté, elle est au Canada, c'est vrai. Elle est ailleurs, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est ma citoyenneté céleste qui est importante. Croyez pas? Ma cité, elle est dans les cieux. Je suis héritier du royaume de Dieu. Troisièmement, Jésus pouvait dire à cette église de Smyrne, je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Jésus dit, je sais tout ce que tu endures et je connais les calomnies. C'est quoi une calomnie? C'est quand quelqu'un dit sur votre compte des choses mauvaises et méchantes qui ne sont pas. Je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait des gens qui soient juifs et qui ne le sont pas? Ils se disent et ils ne le sont pas. Sur votre bulletin, il manque un mot, on ne va pas l'afficher pour l'instant, où il est dit « ceux qui se disent », trois petits points, « et qui ne le sont pas ». Est-ce que vous avez deviné ce qu'il faut mettre? Ceux qui se disent, il n'y en a qu'une proposition? On va l'afficher. Est-ce qu'on peut l'afficher? Évidemment, on aurait pu mettre « sauvé ». Mais si on veut rester par rapport à juif, hop là, ça va vite. Hein. Ceux qui se disent « chrétiens », et ne le sont pas. Dites-moi, est-ce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens? Ma femme m'a ramené il y a quelque temps un magazine qui faisait un état des lieux, des religions dans le monde, en disant voilà où on est rendu dans toutes les religions dans le monde entier. Alors je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qu'ils disent par rapport au Québec, ça doit être intéressant. Et ils disent qu'au Québec, eh bien, il y a plus de 80% de chrétiens. Waouh! Alléluia! De quels chrétiens parlons-nous? En tout cas, c'est les statistiques officielles. Combien de catholiques au Québec? Combien de gens qui se disent chrétiens parce qu'ils ont été baptisés quand ils étaient enfants? Et puis, à part ça, ils ne vont jamais à l'église. À part ça, ils ne vivent pas la vie de Christ. Ceux qui se disent chrétiens. Est-ce que ça se pourrait qu'au milieu de nous, il y en ait qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas? Certains vont dire, non, quand même pas. Si on est venu ce matin, c'est quand même qu'on vaut quelque chose. Vous n'avez pas commencé. Hein? On va parler en mal de ceux qui ne sont pas là, c'est mieux. Hein? Non? Généralement, c'est plus facile. Hein? Regardez ce que dit Jésus, c'est le verset qui était juste avant ça. Ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Est-ce que c'est un vrai chrétien, quelqu'un qui prophétise? Et on parle de vraie prophétie ici, on ne parle pas de de rêves, de pizza, de je ne sais pas quoi, hein, de tu seras le meilleur du monde et je ne sais pas quoi. Hein. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Hey, quelqu'un qui chasse des démons, vous en chassez beaucoup, vous? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Notez bien qu'il n'est pas dit « n'avons-nous pas fait des miracles », mais « beaucoup ». Voilà donc quelqu'un qui a prophétisé, qui a chassé des démons et qui a fait beaucoup de miracles. Alors Jésus dira ouvertement « je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». En d'autres termes, vous vous appelez chrétien et vous ne l'êtes pas. Vous dites que vous êtes de moi, que vous m'appartenez et je ne vous ai jamais connu. Est-ce que ça peut venir nous chercher ce matin en disant où est notre identité? Sommes-nous de ces chrétiens qui ne le sont pas ou sommes-nous réellement chrétiens? Comprenez ici que ce n'est pas parce qu'il y a eu des prophéties, qu'il y a eu des miracles, que ces gens sont des chrétiens. Vous avez dit, oui, mais là, je ne comprends plus. Là, comment est-ce que ça peut marcher? Mais écoutez, la clé ici, c'est par ton nom. N'avons-nous pas par ton nom? En d'autres termes, c'est le nom de Jésus qui guérit. On est d'accord avec ça? C'est pas le pasteur, le chrétien, l'évangéliste, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui guérit. C'est par le nom de Jésus que les démons sont chassés. C'est par le nom de Jésus qu'il y a des prophéties. Et donc, Jésus est en train de dire, oui, en mon nom et par mon nom, parce que vous avez invoqué mon nom, il y a eu des choses qui se sont passées, mais ça, c'était pour honorer, rendre gloire et rendre témoignage au nom de Jésus. Mais vous, je ne vous connais pas. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, chapitre 13, verset 1er, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand je parlerai en d'autres langues, si je n'ai pas l'amour, ça ne vaut rien. » C'est ça ce que ça veut dire? « Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit, une cruche. » Non? C'est pas ça? Et quand j'aurai le don de prophétie et la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont toute la foi pour transporter des montagnes? Vous allez dire, ben, pour avoir la foi qui transporte des montagnes, il faut avoir de la foi grand comme un grain de sève. D'accord. Mais est-ce qu'on transporte des montagnes ce matin? L'apôtre Paul dit, « Même si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Ça a l'air important d'avoir l'amour, hein? Non? Mais c'est vrai que dans nos églises, ou c'est la société dans laquelle nous sommes qui est comme ça certainement, on va apporter plus d'importance aux résultats, aux faits, à ce qui est palpable, aux chiffres, qu'à l'amour. On va dire, ah oui, mais là, c'est quelqu'un qui a fait des miracles, donc c'est un homme de Dieu extraordinaire. Non, non, c'est le nom de Jésus qui est extraordinaire. Vous ne croyez pas? Ah oui, mais là, c'est quelqu'un qui a prophétisé, c'est un grand prophète. Non, non, c'est Jésus qui est grand. Si je n'ai pas l'amour, est-ce qu'on pourrait ce matin considérer que si je n'ai pas l'amour, je risque de ne pas être un vrai chrétien. Il y a ceux qui se disent chrétiens et ceux qui ne le sont pas. L'apôtre Jean dit dans une de ses épîtres, « Si tu n'aimes pas, tu n'as pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. » L'amour fait toute la différence. Malachi, chapitre 3, verset 18, ça fait trois dimanches de suite qu'on cite ce verset, on va finir par le connaître. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et j'insiste sur « de nouveau ». Il faut que l'on voit de nouveau la différence entre le vrai chrétien et celui qui se dit chrétien. On peut se dire chrétien et ne pas l'être. Il me semble qu'il y a ce dicton populaire qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Non, on dit ça ici ? La Bible sous le bras ne fait pas le chrétien. La cravate ne fait pas le chrétien. Le fait de venir à l'église de Pentecôte de Drummondville ne fait pas le chrétien. Non ? Si tu es... C'est pas parce qu'on est dans une église qu'on est forcément chrétien. C'est pas parce qu'on se dit chrétien ou qu'on a ces titres de chrétien, de noblesse, que l'on est chrétien. Ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Et vous avez noté que dans ce passage-là, il est même dit, ils font partie, parce que bon, là nous on parle de chrétiens, mais dans cet épître, il est question de juifs, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, ils font partie de la synagogue de Satan. Waouh, c'est toute une affaire ça. Est-ce que ça veut dire que c'est des messes sataniques ou de je ne sais pas quoi ? Non, c'est simplement pour dire que ils sont dans la mentalité du diable. Vous savez, à un moment, l'apôtre Pierre va parler à Jésus, va dire « Seigneur, ça ne t'arrivera pas ». Et que va répondre Jésus ? « Arrière de moi, Satan ». Est-ce que ça veut dire que Pierre est devenu Satan ? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire que Satan est rentré dans Pierre et que Pierre est là possédé ? Pas du tout. Ça veut dire simplement que tes pensées, Pierre, les paroles que tu es en train de dire sont pas celles de Dieu, mais de Satan. Est-ce que ça se pourrait qu'un chrétien ait une doctrine de démon ? Je reprends l'expression de l'apôtre Paul dans l'épître à Timothée. Doctrine de démon. Si je reste, et je veux rester juste sur ce cadre-là ce matin, on pourrait le développer évidemment de différentes manières, mais simplement sur l'amour. Si nous ne sommes pas là dans le contexte de l'amour et s'il n'y a pas l'amour dans notre cœur, nous jouons le jeu du diable. Le diable est venu pour diviser, égorger, détruire. Jésus est venu pour donner sa vie pour ses brebis. Si nous faisons partie de la division, de la calomnie, je reprends le mot de Smyrne, de la division, de la calomnie, de la destruction, nous faisons le jeu du diable. Allô ? Des chrétiens qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Apocalypse, on va avancer, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Apocalypse chapitre 2, verset 10. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Ça, c'est la bonne nouvelle. N'aie pas peur. C'est toujours bien, non ? N'aie pas peur. Ne crains pas. Bon, vous allez dire, quand même, il y a ce que tu vas souffrir, là. Ça veut dire quoi, cette affaire ? Regardez, Apocalypse chapitre 2, verset 8, 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Jésus est en train de dire à cette église, vous aurez une tribulation de 10 jours. On est dans l'Apocalypse, on sait bien que là il s'agit de prophétie et pas forcément de 10 jours, de 24 heures. Mais il y a donc un temps d'épreuve et de période, d'une période de 10 jours, et ça nous rappelle les 10 jours de Daniel. Vous avez tout de suite pensé à ça, hein. Daniel, chapitre 1er, verset 8, il est dit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Daniel était là en captivité et il devait manger les mets du roi. Est-ce qu'on a la diapo d'avant ? Non, on démarre au verset 10. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont il buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé que vous devez manger et boire. » Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous exposeriez ma tête auprès du roi, Alors Daniel dit à l'intendant qui est le chef des eunuques, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mischaël et de Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Est-ce qu'on comprend cette histoire? Daniel est là avec ses 3 amis en captivité dans un pays étranger. Et là, on leur propose à manger de la viande et du vin. Et eux refusent catégoriquement. Pourquoi? Parce qu'ils sont végétariens. Non, non, non. Par acquis de conscience et parce qu'ils servent Dieu. Et parce que ces viandes étaient sacrifiées aux idoles. Il y avait un culte occulte derrière la manière dont ces viandes étaient sacrifiées. Et eux, ils disaient, on ne veut pas offenser Dieu en mangeant cette viande et en buvant ce vin qui avait servi de libation devant l'autel des idoles. On ne veut pas se souiller et on ne veut pas déshonorer Dieu. Ils ont du courage, alors qu'ils sont prisonniers, captifs, de dire « on ne touchera pas à ces mauvaises choses ». Alors le chef, là, le surintendant pouvait dire « non, mais il y a un problème ». Si vous ne mangez pas de vin, si vous ne mangez pas de viande et si vous ne buvez pas de vin, vous allez devenir tout pâle, tout maigrichon. Et puis le roi va se plaindre. Il dit non, non, mets nous à l'épreuve pendant 10 jours. Alors pendant 10 jours, ils n'ont bu que de l'eau et mangé que des légumes. Vous allez dire, oui, ils ont dû maigrir pendant ce temps-là. Bien au contraire, ils étaient en meilleure forme que tous les autres. Parce que Dieu était avec eux. Ils ont eu le courage de dire non aux choses mauvaises. Et ils étaient en meilleure condition que ceux qui ont touché et mangé ces viandes et ce vin. Ils ont été mis à l'épreuve pendant 10 jours. Et parce qu'ils ont refusé de se souiller, le nom de Dieu a été élevé. Vous savez, Smyrne, si c'est à cette église-là que cette lettre est envoyée de la sorte, c'est parce que Smyrne a une fidélité à l'empereur romain depuis le début des temps. Dès la reconstruction avec Alexandre le Grand, Smyrne a été connue comme une ville fidèle à son empereur, une ville qui faisait le culte de l'empereur. Vous savez que l'empereur romain était considéré comme le dieu, le souverain à honorer. Et il fallait rendre un culte à l'empereur. Et on devait régulièrement présenter à l'empereur, eh bien, faire monter de l'encens et brûler des parfums, et puis donc amener là une adoration à l'empereur romain. Et Smyrne était particulièrement fidèle à cette tradition-là. Mais les chrétiens, en ce temps-là, refusaient, tout comme Daniel, de rendre un culte à l'empereur et de dire, nous, il est hors de question pour nous de faire monter des parfums de l'encens devant l'empereur. Et ils avaient le choix. On leur disait, écoute, tu mets juste une poignée d'encens sur l'autel et c'est correct. Et si tu refuses de le faire, c'est la persécution, c'est le martyre. Et de cette ville de Smyrne, est issu un martyr qui est connu sous le nom de Polycarpe, qui était un disciple de l'apôtre Jean, si on peut dire les choses ainsi. Et certainement que Polycarpe a lu l'épître que nous sommes en train de lire et qui a été envoyée aux 7 églises de l'Apocalypse, et plus particulièrement l'épître qui a été envoyée à Smyrne. Hein, vous prenez de l'avance sur moi là. Vous lisez l'histoire de Polycarpe, ou on peut lire l'histoire de Polycarpe ensemble. Alors évidemment, ce n'est pas tiré de la Bible, c'est ici ce que dit la tradition. Donc ça peut être un petit peu arrangé, mais en tout cas, voilà la tradition. À l'entrée de ce saint vieillard dans l'amphithéâtre, tous les chrétiens présents entendirent une voix mystérieuse qui lui disait « Courage, Polycarpe, combat en homme de cœur !» Le proconsul lui demanda « Es-tu Polycarpe ?» Oui, je le suis. Et alors le proconsul dit, aie pitié de tes cheveux blancs, maudis le Christ et tu seras libre. Et Polycarpe répond, il y a 86 ans que je le sers et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire? Il est mon créateur, mon roi et mon sauveur. Le proconsul répond, sais-tu que j'ai des lions et des ours tout prêts à te dévorer? Et Polycarpe répond ce que chacun aurait dit ici, fais-les venir. Non? Le proconsul dit, puisque tu te moques des bêtes féroces, je te ferai brûler. Et Polycarpe répond, je ne crains que le feu qui brûle les impies et ne s'éteint jamais, fais venir tes bêtes, allume le feu, je suis prêt à tout. De toutes parts, dans l'amphithéâtre, la foule sanguinaire s'écrie, il est digne de mort, Polycarpe au lion. Mais les combats des bêtes féroces étaient achevés. On arrêta qu'il sera brûlé vif. Comme les bourreaux se préparaient à l'attacher sur le bûcher, il leur dit, c'est inutile de m'attacher, laissez-moi libre, le ciel m'aidera. Polycarpe lève les yeux au ciel et prie. Tout à coup, la flamme l'environne et s'élève par-dessus sa tête, mais sans lui faire aucun mal. Pendant qu'un parfum délicieux embaume les spectateurs, à cette vue, les bourreaux lui percent le cœur avec une épée. C'était le 25 avril 167. Voilà ce qui s'est passé avec cet évêque de Smyrne, un père de l'Église, là, en 167, comment il refuse d'adorer les idoles. 10 jours d'épreuve. Il a connu ce temps d'épreuve. Mais Jésus avait fait une promesse. Il avait dit dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Est-ce que nous aussi pouvons être fidèles jusqu'à la mort? Il nous promet la couronne de vie. À cette église, Jésus ne fera aucun reproche. Contrairement à Éphèse et à d'autres églises que l'on va considérer dans les dimanches à venir. Mais il dit dans Apocalypse 2:11 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Peut-être qu'il y a des souffrances qui s'en viennent. Et Jésus avait dit donc à Smyrne qu'il y avait un temps de souffrance qui s'en venait. Je connais. Et il dira, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Mais maintenant, il y a les souffrances du temps présent, du temps physique, du temps terrestre. Et il y a à souffrir la seconde mort. Est-ce que vous êtes prêt à souffrir la seconde mort? C'est quoi cette seconde mort? Apocalypse 26, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, ils régneront avec lui. Apocalypse 20, 14, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Apocalypse 21, 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Dites-moi, où est notre part? Est-ce qu'elle est dans la seconde mort ou est-ce qu'elle est dans la résurrection? Est-ce que c'est la vie qui nous attend? Ou est-ce que c'est la mort? Pourquoi est-ce qu'on dit la seconde mort? Parce que la première mort, c'est la mort physique. C'est lorsque nous mourons dans notre corps. La seconde mort, c'est cette mort spirituelle. Appelons ça l'enfer, même si le mot n'est pas défini comme ça dans la Bible. Sommes-nous prêts pour la seconde mort ou la seconde résurrection? Qu'est-ce qui nous attend? Polycarpe était prêt à souffrir, à mourir, parce qu'il savait que la couronne de vie lui était réservée et qu'il n'aurait pas à souffrir la seconde mort. De quel côté te tiens-tu ce matin? Je vais inviter les musiciens à s'approcher. De quel côté te tiens-tu? Est-ce que tu peux avoir cette assurance que ce n'est pas la seconde mort qui t'attend, mais c'est la résurrection? Est-ce que tu fais partie, et je reviens à la liste de ce qu'il y avait tout à l'heure, est-ce que tu fais partie des lâches, de ceux qui ont peur de souffrir et de mourir en martyr? Est-ce que tu as peur des lions et des ours? Vous diriez, on n'en est pas rendu là encore. On a d'un côté des chrétiens du premier siècle qui sont prêts à affronter les lions, les ours, on peut mettre la diapo d'avant, les lions, les ours, et qui sont prêts à être brûlés vifs. Ils sont prêts à souffrir. Ils sont pas lâches. Ils sont courageux. En disant, moi, je sers Jésus. C'est mon sauveur. C'est mon Dieu. C'est mon roi. Jamais je ne plierai devant une idole. Quand bien même faudrait-il mourir. Et dites-moi, quand quelqu'un nous dit, t'étais pas à l'église de Pentecôte dimanche, j'ai cru voir ton char sur le stationnement. Ah non, non, c'était pas moi. C'était pas moi. C'était pas moi. Moi, dans une église, oh. Il y en a qui sont prêts à mourir. Et il y en a d'autres qui ont peur de confesser le nom de Jésus. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a... Où sont les vrais chrétiens? Ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Est-ce qu'on fait partie de ces chrétiens dans Apocalypse 2:9, et je reviens sur ce verset, « Je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. » Est-ce que nous faisons partie de ceux qui font des calomnies, qui parlent en mal des autres? En plus, c'est faux. Quelqu'un dira, mais quand c'est vrai, j'ai le droit de le dire. Tu le crois? C'est ça l'amour? Est-ce que l'amour, c'est de dire, oui, mais l'amour, c'est la vérité. Prenez quelqu'un que vous aimez vraiment. Si tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants. Dites-moi, si votre fils était en prison aujourd'hui, si votre fille était en prison, comment est-ce que tu parlerais d'elle ou de lui? Oh, c'est un bandit, c'est un voyou, c'est un vaurien, il n'a que ce qu'il mérite. Peut-être que certains parents diraient ça, mais... Ou est-ce que l'amour que l'on a pour nos enfants, pour ceux qui sont bien aimés, va nous amener à dire les choses différemment. Ça ne veut pas dire qu'on va excuser et dire « Non, non, ce n'est pas grave ce qu'ils ont fait, c'est une injustice, le gouvernement. » Non, non, non. Il faut assumer ses responsabilités. Mais l'amour nous amène à dire des paroles qui sont des paroles de bonté, de bienveillance, et pas des paroles de calomnie et de méchanceté. Les chrétiens qui sont des vrais chrétiens sont ceux qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur. Et qui parle avec bonté, avec amour. Non? Et un dernier verset, Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et ça continue. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Est-ce que ça rappelle pas Smyrne, ça? Et Christ t'éclairera. Ce matin, réveille-toi, toi qui dors. C'est le temps de se réveiller, c'est le temps de revenir à la vie, c'est le temps de prendre position, c'est le temps d'être un vrai chrétien. Je vous invite à vous lever à votre place, on va juste prendre quelques minutes encore maintenant et demander la grâce et la faveur de Dieu sur ce temps.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.